Léon Cladel, où les miens ont vécu. Geignant sur son essieu, le char à bancs mis à ma disposition par un bibliophile de Moissac roulait en bien que mal le long de la grande route poudreuse, autrefois sillonnée en tous sens par les messagers et les malpostes, à peu près déserte aujourd'hui que les trains circulent sur les lignes de chemin de fer du sud-ouest, et mes yeux examinaient, tantôt à gauche, tantôt à droite, les vieux saules évidés qui bordent cette chaussée, recouvrant une ancienne voie romaine. Il n'avait presque pas changé, ces arbres centenaires, qu'enfant encore j'avais connus et que je retrouvais aussi verts, aussi jeunes qu'au temps passé, moi, quasi vieillard déjà. « C'est Camus !» s'écria tout à coup le condisciple qui m'accompagnait. « C'est Camus de l'Ursinade !» Aussitôt, je descendis de la carriole qui s'était arrêtée. Un terrien, assis sur un tas de gravier en face de l'église du hameau, me reconnut en dépit du fardeau des ans sous lequel ployaient mes épaules et s'étant levé m'accosta. « Qu'il y a de jours, monsieur, qu'on ne vous avait pas vu ici ?» Vous y êtes venu sans doute à l'occasion des fêtes de Cahors et de Montauban. Oh non, mon beau, oh certes non, elle m'importe peu. Mais naguère là-bas, à Paris, j'éprouvais le besoin de saluer quelqu'un qui reste à deux pas de nous en ce coin, et me voici. Rien de plus naturel, s'exclama le paysan, qui cherchait en vain à me comprendre. On vient, on part, on revient, on s'en retourne. Et quand on est là de voyage, on finit par entrer là d'où l'on est sorti. C'est clair, pardienne. On conçoit aisément tout ça. Je lui serrai rapidement les mains et me dirigeai vers un clos raboteux, sorte de friche dont les ronces et les herbes moutonnaient pêle-mêle, agitées par la brise, au-dessus d'une foule de tertres, de 5 à 6 pieds de long sur 3 de large environ. « Ne cours pas si vite, il y a des faudrières !» Sourd à la voix de mon ami, je marche droit aux deux fers rouillés qui défendaient l'asile où dormait celui qui, pendant sa vie, n'avait pas goûté de repos. Envahi par des chardons et les orties, cette armature disparaissait presque entièrement sous les broussailles, et c'est à peine si, parmi cette végétation parasitaire, je parvins à découvrir une parcelle de ce sol glabre et rouge, où quelques semaines avant notre éternelle séparation, Montauban, tu ne le sauras pas, m'avait dit en le frappant de son bâton de houe, « Oh, si je n'obtiens pas l'autorisation de m'enterrer au milieu de cette prairie, entre les deux amandiers que j'y plantais, tu t'arrangeras pour qu'on me mette là. Belle exposition au midi, chaque matin à son lever, le soleil m'y frappera d'aplomb et ses raies m'y réchaufferont les eaux. » Il gisait à la place qu'ils étaient choisis et de laquelle il ne sera point exhumé, ce sévère compagnon du devoir. Car, respecté de sa suprême volonté, je ne prendrai jamais sur moi de revenir ses cendres à celles de ma mère et de mes deux enfants, qui sommeillent avec elle sur les cimes du Père Lachaise, au fond du même tombeau. Debout et chapeau bas devant la fosse où se consume ce brave qui mourut sans peur et sans reproche, si je ne murmurais pas des prières quelconques, ni ne m'agenouillais point sur la terre en implorant le ciel, non plus sensible qu'elle-même, au moins, je laissais là mon cœur saigner à son gré. 1806-1869. Et m'abîmant, je ne sais quelle obscure et cruelle rêverie, je parcours de mes deux doigts ces deux dates presque invisibles dans le métal oxydé, marquant l'une le commencement et l'autre la fin de l'homme qui m'avait créé. Lui, soupirai-je à bout de force et comme hypnotisé par le cher fantôme enfin apparu, oui, c'est lui-même. On m'entraîne. Je remontai sur le champ en voiture en priant le cocher de me conduire au-delà du coteau qui nous barrait l'horizon. Alors, Lord, oui. 10 minutes ne s'étaient pas écoulées que nous avions atteint le sommet d'une pente très déclive, d'où mes prunelles, ravies, contemplèrent un panorama qui m'avait été familier, et les battements irréguliers de mes artères répondirent bientôt au rythmique tic-tac de ce riant moulin où j'avais savouré de si douces heures entre mes proches. Enseveli sous des bouleaux et des charmes, il était toujours là, paisible, à califourchon sur les eaux candides du Bief, où se réfléchissait tout le ciel, et juste au milieu de ce cirque de verdure, où s'ajuste d'une part, après avoir franchi le Tarn et l'Aveyron conjugués, les plaines fécondes du Languedoc, et s'échelonnent de l'autre les mamelons fligneux du Quercy, scindés par de profondes gorges au-delà desquelles se déroulent les perspectives sans fin. Ayant mis pied à terre et foulé le pont du Lambou, je m'engageais dans cette étroite et longue allée domestique où jadis les gars de Saint-Bartholomé Porte-Glève et de Saint-Guillaume le Tambourineur étaient venus m'offrir un bouquet de fleurs artificielles composé de tilipes bleus d'azur, de lys blancs de bœuf et d'épis de sarrasin tricolore. Sous le rouvre qui trône de l'autre bord du rue, béait la grotte où le hasard m'avait souvent rendu témoin des amours primitifs d'Ino et de Janille, aujourd'hui mariés, bien portants aussi, grâce à Dieu. Je considérais en marchant l'arbre et la crypte, lorsqu'une vieille pastour qui filait sa quenouille en passant, pressant une truie et plusieurs biques m'arrêta. « Que demandez-vous ici ?» Cette brutale apostrophe me souffleta. Quel dur rappel à la réalité. Je n'étais plus chez moi. Des étrangers possédaient le toit où les miens et moi, côte à côte, nous avions vécu. « La permission, répliqua mon ami, de visiter cette demeure. »« Eh bien, suivez-moi tous les deux, » dit après quelques minutes la méfiante gardienne. « Et s'il vous plaît, n'abîmez rien. » Nous nous introduisîmes silencieux et comme en un sanctuaire sous le hangar de la bâtisse où les 8 des étables étaient encore estampillés à l'encre de Chine. Des équerres et des compas symboliques de Maître Jacques, que le précédent propriétaire avait tant vénéré. Dès que nous eûmes parcouru le rez-de-chaussée de l'usine, où les meubles ronflaient en vironnant entourés d'un nuage tourbillant de farine, nous montâmes au premier étage dans les 4 petites pièces duquel s'était usée la vie de ma laborieuse et solitaire famille. Attiré d'abord vers la chambre carrée, à l'un des angles de laquelle je couchais en une sorte de niche, séparée par un paravent qui touchait au plafond de l'alcôve de ma mère, la simple et digne femme, ne voyant encore en moi, malgré la farouche barbe d'ermite dont ma figure était déjà couverte à 20 ans, que le marmot qu'elle avait conçu, nourri, torché, ne permettait pas, tant que je séjournais auprès d'elle, que je fusse un instant hors de la portée de ses mains secourables, j'en poussai la porte entrebâillée avec une émotion extraordinaire et qui s'accrut au point de me paralyser les jambes au moment où j'y pénétrais. « Mais regardez !» criai-je hors de moi. « Mais regardez ça !»« Quoi donc ? Mais ce blé ! Ce blé !» Fille et sœur de compagnards presque indigents, épouse d'un maigre ouvrier de ville, elle avait toujours eu la noble créature qui me berça dans son giron, ainsi que même, et comme tous ceux qui gagnent leur pain à la sueur de leur front, une vénération instinctive pour cet aliment indispensable aux humbles de sa race, et tremblait toujours d'en manquer. Aussi, m'en souvient-il, avec quelle ferveur exhalait-elle chaque soir, avant de se dévêtir, ces paroles latines du pater. Danobis odie panem quotidianum. Et maintenant, à l'endroit même où je l'avais si souvent vu prier avec tant d'ardeur et de piété, celui qu'elle tenait pour le souverain arbitre et le dispensateur universel, de lui fournir la pâture, ainsi le fait aux petits oiseaux, s'élevait un monceau de graines assez abondant pour subvenir aux besoins de toute une tribu pendant au moins une année. Et moi, grison, non moins émerveillé qu'attendri, les orteils rivés au carreau, oh, je ne savais que répéter le premier mot que Bambin emmailloté de l'érange, j'avais balbutié. Maman, oh maman! Après m'avoir arraché tout vibrant de ce parquet où mes talons s'étaient soudés, on essaya de m'emmener dehors. Mais avant de descendre, je voulus revoir aussi la mansarde dans laquelle, chaque jour, le patron, fruste comme un Romain et sobre comme un Spartiate, déjeunait seul d'une gousse d'ail et d'une fouasse arrosée de quelques gouttes de piquette, en interrogeant par une lucarne le soleil qui se mirait dans les ondes soyeuses et limpides du ruisseau, caressant les plantains de ses deux berges inégales, et se délassait, ne donnant jamais que d'un œil, entre les draps écrus d'un méchant grabat, où voici déjà 15 ans il s'éteignit entre mes bras, un soir, à la tombée de la nuit. « Tâche d'ouvrir, » dis-je intimidé sur le seuil du réduit à mon camarade, que mes saintes angoisses avaient tout remué. Bon, je ne puis pas, moi. J'entendis grincer un loquet et, sitôt après, un grand bruit d'ailes. Énigmatique et magique spectacle dont je fus confondu. Dans ce misérable galetas que l'agonie du chef de la maison avait splendifié, nul meuble à présent, pas un, ni la table en bois blanc où jadis il s'asseyait pour tuer le ver, ni le court vermoulu chargé de ferme brûlure où soigneusement il serrait ses registres et son numéraire, ni le lit au chevet duquel je l'avais veillé pendant que sa chair se déracinait de son corps. Mais il y avait plus de 100 pigeons et de toutes espèces, des cobains, des patus, des huppés, des ramiers, des colombes et des tourterelles. Or, dès son berceau, le rude plébéien qui m'engendra s'était montré tendre à ses volatiles. Et depuis sa première enfance, il en avait toujours eu. Ça avait été son unique faiblesse. Il se la reprochait parfois en se traitant de sacré nigaud. Du froment ici, chez celle qui n'avait guère songé qu'à se prémunir, et chez celui qui ne s'était jamais apitoyé sur la condition des animaux, une foule de ceux-là seuls qui l'eût jamais choyé, et tandis qu'ils me caressaient tous de leurs ailes et me caressaient de leur bec, il me sembla que j'étais enveloppé de mystère, et je frissonnais en but à je ne sais quelle transe religieuse, ébloui par ces vertigineuses métempsychoses. Enfin, ma poitrine, grosse de larmes, creva. Je sanglotais. « Qu'est-ce ? » questionna la rustaude qui nous surveillait. « Il pleure, votre ami, pourquoi ?»« Chut ! Taisez-vous ! Ne bougez point !» murmura mon compagnon de route. Son père mourut là. « C'est celui-ci » s'écria-t-elle en me désignant. « Et donc le fils de cet ancien ?» qui labourait autrefois les entours du tric-trac, un monsieur devenu paysan, coiffé d'un chapeau de citadin et vêtu d'un frac à queue d'hirondelle, avec un tablier de basane autour des flancs. « Oui, » répliquai-je en mon trouble persistant, « et je suis un laboureur aussi, moi. » Puis je passai dans une salle voisine assez spacieuse, où nous dînons tous ensemble autrefois, et là... C'est là qu'aux lueurs parcimonieuses d'une lampette à pétrole, tandis qu'à la veillée, maman, brune comme une taupe, me tricotait les bras ou me ravaudait du linge, et que papa, blond comme les blés, se rappelant son vieux métier de bourrelier, raccommodait la barde de quelques mules ou la trésègue d'un joug à bœuf. Moi, leur fruit à la fois roux et brun, j'écrivis avec l'enthousiasme de la jeunesse et certaine confiance en moi que tous mes revers n'ont pas abattu ni même ébranlé cette tragicomédie, la fête votive et cet églogue, le boucassier. Mien, cher mien, oh, Pauvres âmes, adieu. Les feux du couchant rasaient les myrtes d'alentour. À ce moment, une buandière qui fredonnait en s'accompagnant de son battoir enfla sa voix qui retentit sous les fenêtres. Sur la terre, en l'air et dans l'eau, rien ne meurt, tout se renouvelle. Que mon amant devienne oiseau, je me mûrai vite en oiselle. Et si je renais plante ou fleur, moucheron, il boira mon cœur de rose, blanche ou rose, lui, mamie. Vieil orphelin en deuil, je m'en allais, l'esprit hanté de radieuses images mystiques, où revivait, transfiguré, ce que j'aime encore et toujours aimerai d'un amour filial.